Chers frères et sœurs, je me souviens que quand je lisais Marcel Pagnol, il y avait un passage de Topaze, si je me souviens bien, qui m'avait marqué. C'est à un moment donné un instituteur qui ne sait plus quoi faire devant un de ses élèves particulièrement dissipé et il doit lui donner une punition. Alors l'instituteur ne sait plus quoi dire. Élève, je vous condamne, je vous condamne, je vous condamne à l'incertitude. C'était très bien vu. Parce que c'est le pire qui puisse nous arriver. Ne pas être fixé sur son sort. Ne pas savoir ce que nous valons en vérité. Être fixé sur son sort, c'est une soif viscérale du cœur humain. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la deuxième lecture aujourd'hui, le Seigneur nous dit « Vous ne serez pas surpris, vous serez jugés. Vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour-là ne vous surprendra pas comme un voleur. » Voilà, nous sommes dans cette lumière, sachant qu'un jour nous aurons le jugement et que ce jugement, ce retour du Christ, à quoi c'est associé, eh bien, assouvira cette soif de notre cœur. C'est la première des choses. Deuxième chose, ce jugement. Est-ce que nous devons le craindre? Vous savez très bien qu'il y a eu, si je puis dire, de manière un peu irrévérencieuse, tout un folklore dans l'Église où on a insisté sur la crainte de Dieu au point qu'on faisait sonner les orgues avec des espèces de roulements de tambour pour manifester les affres de l'enfer. Et ça, c'était dans les missions paroissiales que ça se passait. Et puis on chantait le Dies Irae, Dies Illa, le jour de la colère. On était terrorisés. Or, le jugement, nous a dit Benoît XVI, c'est la source de l'espérance. C'est la source de l'espérance parce que par le jugement, j'échappe à l'insignifiance. Ce que je fais, quelqu'un le reconnaît. Quelqu'un le sanctionne au sens le plus noble, en voit la beauté ou l'indignité. Mais en tout cas, ce que je fais a un poids. Et c'est l'honneur d'être homme que d'écrire aujourd'hui dans le temps notre éternité. Soyons tout à lui dans le temps pour être tout à lui dans l'éternité, disait le Père Lamy, notre fondateur. Mais sur quoi nous allons être jugés? Vous le savez bien, ce dimanche et dimanche prochain, Christ Roi forme comme un diptyque. Ce sont deux évangiles de jugement. La semaine prochaine, c'est le jugement dernier. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais en prison, vous m'avez visité. Quand est-ce que, Seigneur, nous t'avons vu avoir faim, soif, être dénudé en prison? À chaque fois que vous l'avez fait, un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Mais ces gens qui sont jugés ne savent pas que c'est le Christ. Et l'évangile des biens, ce sont les nations païennes qui sont alors jugées. Comme saint Martin qui donne la moitié de son manteau à un pauvre à Amiens et qui seulement après, le Christ lui apparaît pour lui dire « Martin, tu m'as reconnu dans le pauvre, mais c'est après. » Voilà, ça c'est le jugement des païens jugés sur la charité. Nous aussi, nous serons jugés sur la charité. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous dit, il y a une autre exigence. À chacun d'entre nous est remis un talent. Les païens n'ont reçu d'autres talents que leur conscience. Nous avons reçu l'évangile, les prophètes, les sacrements, etc. Bref, nous sommes des privilégiés. Et nous serons jugés comme des privilégiés. À qui a plus reçu, il est plus demandé, nous dit aussi l'Évangile. Mais un autre point très important, qu'est-ce que l'Évangile que nous avons reçu ? Est-ce que c'est une espèce de gros livre qui est dans notre bibliothèque et qui est là, tranquillement à prendre la poussière ? Une espèce de chose qu'on aurait dans un coin de sa maison, un objet mort ? Non, l'Évangile est quelque chose de vivant. Je vous rappelle ce très bel épisode de la vie de saint Antoine de Padoue qui est représenté dans toutes ses reproductions. Saint Antoine, on l'appelle le docteur évangélique, lui était, qui était pétri de l'Évangile. Eh bien, en lisant l'Évangile, l'enfant Jésus lui est apparu sur ce livre. Ce qui signifie, l'Évangile, c'est une personne. Mieux encore, l'Évangile, c'est un enfant. Et c'est un enfant qui veut grandir. Or, si on ne nourrit pas un enfant, si on ne le désaltère pas, si on ne l'aime pas, il va mourir. Eh bien, c'est la même chose pour la semence de l'Évangile déposée dans notre cœur. Elle porte en elle un dynamisme. Et si ce dynamisme n'est pas honoré, eh bien, il va s'éteindre. C'est pour ça qu'il y a un parallèle entre l'Évangile, ses talents, et l'argent. L'argent, quand j'étais petit, que ma vieille tante m'avait envoyé un billet de 50 francs, mes parents me disaient « il faut le mettre à la caisse d'épargne pour que ça fasse des petits ». Voilà. Bah oui, ils m'enseignaient l'Évangile, mine de rien, à travers ça. Voilà, ce qui est important, c'est justement dire « comment est-ce que je vais permettre à cet évangile de grandir ? Concrètement, l'évangile et la grâce de l'évangile, ils ont été déposés par la grâce du baptême. C'est un principe de croissance. Alors, il faut en prendre acte. La grâce en moi n'a pas été vaine. La grâce va mettre à mort en moi les œuvres de la chair, dit encore saint Paul. Elle va me surélever, dit la théologie. Elle va changer mes désirs. Bref, c'est une révolution qui s'accomplit à travers moi. Comme un petit enfant dans une famille, c'est une révolution. Tout tourne autour de lui. Eh bien, c'est ça la grâce. Tout tourne autour de la grâce. Un autre point extrêmement important, permettez-moi encore de citer mes parents. Ils me disaient, heureusement qu'on vous avait, parce que quand on est arrivé dans cette ville, on connaissait personne, on est allé vous chercher à l'école et à la sortie de l'école, on s'est fait des amis. Si vous voulez, l'Évangile, ça va être ça aussi, ce principe qui va me forcer à sortir de moi-même et à aller vers les autres. Et je vois combien c'est vrai. Quand l'Évangile est vécu, il est une puissance d'ouverture, il est un remède magnifique à l'individualisme. Le pape François disait encore « Le Christ est à la porte et il frappe », citant l'Apocalypse. Oui, il est à la porte et il frappe, certes à la porte de notre cœur, mais il frappe de l'intérieur de la porte de notre cœur parce qu'il veut sortir, il veut comme cet enfant aller vers les autres. Il veut finalement briser les barrières de mon moi, les frontières de l'Église pour qu'elles se répandent dans le monde entier. Voilà le dynamisme du Christ à l'intérieur de moi. Un dernier point. L'Évangile de ce jour nous enseigne aussi un autre usage de la liberté. Qu'est-ce qu'a fait le dernier homme qui a reçu les talents, le dernier serviteur ? Il a parfaitement accompli la loi des dépôts consignée dans la Bible. Quand tu reçois un dépôt, tu le remettras intégralement à son propriétaire. Et Jésus nous dit, vous ne pouvez pas vous contenter du légalisme. Il y a un temps nouveau, il y a une semence nouvelle. Vous devez considérer votre liberté autrement aujourd'hui. C'est la liberté de l'initiative et du risque. Que fait Jésus au moment de s'en aller? Il confie son Église aux apôtres qui viennent de le trahir. Ça aurait été beaucoup plus sûr qu'il reste sur la terre et qu'il garde le gouvernail. Non. Ça n'est pas la logique de l'Évangile. Ça n'est pas la logique du Christ. Le risque est l'initiative dans l'usage de notre liberté. L'initiative aussi audacieuse. Le pape ne cesse de dire « Ne vous contentez pas d'une pastorale de conservation où vous allez refaire toujours ce que vous avez fait. » Je pense à un Jean-Paul II qui lance les JMJ parce que c'était l'année internationale de la jeunesse. Quelle audace ! Je pense à un Benoît XVI qui lance le Parvis des Gentils où il va inviter des athées, des agnostiques, pour dialoguer avec des croyants. On pouvait très bien lui tomber dessus en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? L'Église se paganise, l'Église rentre dans l'agnosticisme. » Et chacun des saints de notre belle Église, malgré tout ses difficultés et ses péchés de ses membres, eh bien chacun des saints, c'est quelqu'un qui a su utiliser sa liberté de manière créatrice. Regardez les jésuites, le seul mode de vie religieuse à l'époque, on est dans un monastère, on prie l'office, c'est tout. Saint Ignace dit « Allez, enseignez et que l'apostolat soit votre règle, vous continuerez à dire l'office, mais vous le direz par-devers vous, puisque vous serez sollicité par les besoins de la mission. » Il va rompre avec une tradition multiséculaire, mais mu par l'esprit, donc en parfaite homogénéité avec cette histoire de l'Église. Alors, posons-nous la question, comment est-ce que j'utilise ma liberté ? Chers frères et sœurs, pour conclure, eh bien, la Vierge Marie a reçu ce talent précieux qu'est l'enfant Jésus. Elle l'a fait fructifier, elle l'a nourri, elle y a été attentive. Le Christ, grâce à elle, a atteint sa taille adulte. Elle a grandi aussi dans son cœur et son cœur en a été élargi. Mais surtout, elle l'a donné au monde. À nous, frères et sœurs, par l'Évangile, par l'Eucharistie que nous allons recevoir, le Christ est remis comme cet enfant. Qu'allons-nous en faire ? Voulons-nous qu'il remplisse l'univers ?